politiques peuvent faire.
Il y a un très gros enjeu politique.
On y est à ce moment-là.
Toi, tu as ça, moi j'ai ça, et je ne te donne pas ce que j'ai parce que je le garde pour moi, ça ne marche pas.
C'est très cynique.
Peut-être exagéré.
La mission d'un homme ou d'une femme politique,
c'est de décevoir. Matin première.
Et à 8h33, les politiques menacées et les séries belges à succès. Conor Rousseau sous protection, Het Verhaal van Vlaanderen et 1985, dans le parti pris de ce mercredi avec Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au Journal de Soir et chroniqueuse au Standard. Bonjour Béatrice.
Bonjour François.
Et Ivan Devader, journaliste politique à la Verte. Et bonjour Ivan.
Bonjour François.
C'est la superstar de la politique en Flandre, le garçon chéri de la gauche néerlandophone, et il est aujourd'hui placé sous protection politique. Depuis une semaine, Conor Rousseau, le président de Vooruit, les socialistes flamands, est visé par une lettre de menace. La police était présente en nombre également lors des vœux de Vooruit ce dimanche à Saint-Nicolas, où Conor Rousseau s'est montré très détendu. « Je vais faire mon propre truc », dit Conor Rousseau. « Aucun parti, aucune menace ne changera qui je suis ou ce que je fais. » Et il explique les rondes des patrouilles de police, le dispositif de sécurité auquel il doit se soumettre. Le ministre de la Justice, Vincent Van Kuykenborne, a aussi fait l'objet d'une protection à deux reprises. Lui et sa famille ont dû se réfugier dans une safe house, un lieu tenu secret. Ivan Devader, c'est un phénomène nouveau, ça, les menaces envers les politiques?
En tout cas, j'ai un peu l'impression, quand on voit la législature, cette législature, il y a quand même une série d'hommes et de femmes politiques qui sont sous la protection de la police. Je vous rappelle Bardewever, mm-hmm. ça fait déjà un temps. Zualdemir, la ministre de l'énergie et aussi de l'environnement. Il y a Annelies Verlinde, la ministre fédérale de l'intérieur. Il y a évidemment le ministre de la justice qui a dû se fuir avec sa famille dans un safe house, déjà deux fois. Et puis maintenant, il y a Conor Rousseau avec un petit incident lors de la réception du nouvel an de son parti Vooruit à Sint-Niklaas, avec un homme qui se dirigeait vers le podium où le président était en train de livrer son discours, un peu trop enthousiaste, et avec des policiers en civil qui immédiatement sont intervenus et ont dirigé l'homme vers l'extérieur. C'était un incident de rien, quoi. Sans menace, rien s'est en réalité passé. Mais ça donne un peu, ça montre un peu l'atmosphère.
La nervosité.
La nervosité autour de quand même ces menaces. Une menace avec une lettre, comme vous avez dit, une lettre qui est livrée à la rédaction du Last News, où on disait que la dernière heure de Conor Rousseau avait sonné. C'est quand même des menaces assez concrètes. Et quand on lui a posé la question, est-ce que vous savez de quel côté ces menaces viennent, lui-même, Conor Rousseau, sur le plateau du Zevededag, avait parlé, par exemple, des concerts de Frontnacht, des concerts d'extrême droite, à Ypres, où il a intervenu co-président de son parti, ou les menaces sur les réseaux sociaux. Et donc je crois qu'il y a trois causes, c'est les réseaux sociaux, c'est la drogue dans le cas du ministre de la Justice, mais aussi la pandémie, la crise de Corona, où disons les gouvernements ont atteint à des libertés de certains et qui ont réagi assez violemment. Et donc ça donne une atmosphère un peu nouveau. Dans ma mémoire, oui, il y a toujours eu des cas de protection, de cas de menace, mais maintenant, ça fait quand même beaucoup de politiques qui sont dans cette situation-là.
Voilà, réseaux sociaux, trafic de drogue et crise sanitaire, pandémie de Covid, ce sont les ingrédients qui expliqueraient cette nervosité, ces menaces de plus en plus fréquentes envers les politiques. Ça devient dangereux, Béatrice Delvaux, de faire de la politique aujourd'hui en Belgique ?
Peut-être, François, si tu es un tout petit peu, parce que mon collègue Stéphane Van de Velde est en train de faire une petite recherche, et il m'a donné hier des chiffres qui disent, oui, on lui avait dit que 122 personnes en fait étaient aujourd'hui en protection judiciaire en Belgique.
Et pas que des politiques.
Non, parce que bien sûr, ça concerne des magistrats, des journalistes. Mmh. Et il y a, en 2022, il y a eu 63 nouveaux dossiers ouverts. Donc il y a eu une augmentation à un moment donné, qui certains situent aussi plus dans la foulée des attentats terroristes, où à un moment donné, il y a eu des augmentations de suivi. Mais en tout cas, bon, ça fait un certain nombre de personnes qui sont suivies. Donc évidemment, les plus spectaculaires, parce que les plus visibles aussi sont les ministres. On rappellera aussi que Ludivine de Donder avait été mise à un moment donné, pas dans une CFOS, mais avait été protégée lorsque Jürgen de Koning s'était échappé dans la nature. Et oui, je pense que Ivan a raison, il y a les phénomènes aussi d'expression débridée un peu dans la foulée de Trump et de Bolsonaro. On a vu ce que ces comportements un peu libérés par rapport à la parole, par rapport à la démocratie, par rapport aux attaques qu'on fait frontalement, inspire une série de gens et donne une sorte d'autorisation à des citoyens un peu perdus, un peu fâchés, attise leur colère et leur donne une espèce de permission de passer à l'acte. Hein. On le voit ici dans les auditions au Capitole, que les gens sont montés à l'assaut du Capitole, c'est sur incitation assez précise aussi de leur leader mythique ou symbolique qui était Donald Trump. En Belgique, il y a ce phénomène complémentaire qui s'est ajouté, qui est celui du trafic de drogue. Et je me rappelle, je suis allée relire en fait une chronique de Jean-Paul Marteaus, qui est un journaliste qu'on connaît bien ici à la RTB, et qui est un grand spécialiste, qui a beaucoup étudié toute la particularité des trafic de drogue dans les pays latinos. Et il avait fait une chronique dans Le Soir qui était fin 2021 pour 2022 en disant « Attention, vous ne voyez pas ce qui se passe, vous êtes aveuglés par le Covid, etc. Mais il y a ce trafic de drogue qui va mettre nos sociétés européennes en danger. » Et il avait redécrit comment ça s'était passé en Colombie puis au Mexique. Et il disait notamment, à l'époque, il y avait eu 150 journalistes tués en 10 ans au Mexique. Et donc il y a une menace particulière qui s'est accrue. Et donc, fatalement aussi, maintenant, on a tendance à un peu tout mélanger, puisque évidemment, l'OCAM et d'autres organismes sont censés analyser finement les menaces qui sont exprimées, mais elles sont prises très au sérieux parce que quelle menace vient d'où ? Est-ce que c'est un quidam un peu déséquilibré, façon un civil, façon Jürgen Konings qui a menacé Conor Rousseau ? Ou est-ce qu'on est dans les mêmes genres de menaces que celles qui sont portées sur le ministre de la Justice ou sur Bart Weaver ? On ne sait pas. Et donc, c'est vrai que c'est assez inquiétant, mais je rappelle, c'est pas que les ministres, il y a des avocats, des magistrats, il y a des avocats qui refusent de plaider dans des cas de drogue parce qu'ils ont peur pour leur vie.
Un climat plus violent, donc, ces derniers mois, ces dernières années en Belgique, ce sera aussi peut-être l'un des thèmes de campagne, Ivan de Vader, pour les élections de 2024, cette violence latente en Belgique.
Oui, et ça se porte aussi au sentiment rien ne va plus dans la politique, ou disons que les électeurs ont un peu vers cette politique. Ça se lie aussi aux extrêmes, aux extrémistes, et c'est pas uniquement en Belgique. Je vous rappelle par exemple un sondage, vous qui aimez regarder la France, c'est un sondage qui s'est fait en France le 8 décembre 2021, c'est-à-dire il y a un an et demi, 10 000 Français ont été interrogés, et donc même si la majorité des Français condamnent des actes d'agression ou d'intimidation, des élus, près d'un Français sur deux déclare soutenir ou comprendre les personnes qui interpellent des élus par des mots grossiers. Mmh. Et 3 Français sur 10 estiment qu'il est compréhensible si on recourt à des actes violents envers des élus. C'est quand même étonnant et grave si des gens ont déjà ces sentiments-là. Et aussi, on a parlé de la ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, de sa démission. La police néo-zélandaise a signalé que les menaces contre la première ministre avaient triplé les 3 dernières années. Donc c'est pas uniquement en Belgique, mais il y a un sentiment, on recourt vers une violence, même si c'est une violence verbale, contre les élus, et pas uniquement les élus, nous aussi les journalistes, il y a des cas, nos équipes qui sortent aux Pays-Bas, les équipes n'ont même plus le symbole du NOS, c'est-à-dire la vérité hollandaise, parce qu'ils se font agresser là aussi. Donc il y a quand même, il y a des choses qui sont en train de changer.
Ouais, c'est une tendance que l'on observe de plus en plus, malheureusement, au sein de nos sociétés. Alors, on replonge à présent avec vous dans une époque où existait encore la gendarmerie, avant la réforme des polices, donc les années 80, une gendarmerie gangrénée par la corruption, l'extrême droite, les balais rose, avec cette série 1985, coproduite par la VRT et la RTBF, série bilingue qui revient sur les tueries du Brabant, des attaques contre des supermarchés qui avaient fait 28 morts entre 1982 et 1985.
Tout ce qu'ils disent sur la gendarmerie.
les deux premiers épisodes de 1985 diffusés dimanche soir. Belle audience des deux côtés de la frontière linguistique, 23,6% sur la RTBF et 41,7% sur la VRT. Ça veut dire qu'en moyenne, un Belge sur trois qui était devant sa télé dimanche soir regardait cette série. Vous avez regardé, vous, Béatrice Delvaux ?
Oui, tout à fait.
Ah, et vous avez aimé ?
Alors, j'ai bien aimé, mais je me suis... d'abord beaucoup énervé, alors
parce que
j'ai tenté de trouver la version originale et en trouvant les sous-titres français adéquats, parce que j'avais de fait un peu de problème à comprendre le néerlandais seul. Et je ne l'ai pas trouvé, en fait. Donc, je suis passée quand même à la version doublée, qui, moi, me gêne énormément en termes de doublage. Et on m'a dit, tu aurais dû passer sur VRT Max, qui est l'ovio néerlandophone. Je ne l'ai pas fait, mais là, on avait une version originale avec les sous-titres en français. Et en fait, je n'étais pas la seule à m'énerver, parce que j'ai reçu beaucoup de SMS de collègues flamands, d'amis flamands, qui me disaient, mais quelle occasion ratée, enfin, etc. Alors, bon, on va laisser la RTBF répondre.
Donc, évidemment. La RTBF, voilà ce qu'elle répond, puisque j'ai réponse, puisque vous m'avez interpellé là-dessus. Donc, effectivement, via la télécommande, il y a moyen d'activer la version originale avec les sous-titres. Vous n'avez peut-être pas trouvé le bon bouton.
Ah, on était deux à s'y mettre, et je peux vous dire
Et il y a effectivement une version doublée pour pouvoir toucher le plus grand nombre, puisqu'on estime aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de lire des sous-titres et qui ont envie de regarder la série doublée. Mais donc il y a moyen de faire les deux sur la
télé. Vous avez compris que je suis une nouille technologique, mais je pense quand même que c'était compliqué. Et donc l'autre chose, c'est que évidemment la version doublée, je comprends l'argument commercial et de logique, en fait, ou culturel aussi, hein, parce que je pense que les francophones de fait n'aiment pas écouter longuement des programmes néerlandophones. Après, je me dis, il y a une occasion ratée, est-ce que beaucoup de gens soulignaient, parce que comment est-ce que vous voulez que les francophones se disent que le flamand c'est autre chose qu'une langue d'homme politique, qu'ils ne la comprennent pas, si on ne leur donne pas à découvrir aussi dans des circonstances culturelles, découvrir les acteurs, etc. Mais au moment où nous on s'excitait du côté flamand, c'était rigolo, d'autres s'excitaient sur la version flamande à la VRT. Et j'ai lu hier un billet d'humeur d'un journaliste du Standard qui disait, mais qu'est-ce que c'est que ce néerlandais gantois qu'on ne comprend pas? Heureusement qu'on avait des sous-titres, on aurait dû avoir des sous-titres flamands pour pouvoir comprendre. Et par ailleurs, il disait qu'il recommandait à leurs lecteurs d'aller écouter la version doublée côté francophone, parce que ça aurait permis aux petits flamands qui parlent de moins en moins bien français de comprendre le français et de mieux le pratiquer. Alors moi, je trouvais, au fond, au bout du compte, c'est devenu une histoire belge sur une histoire belge, et ça avait son côté absolument délicieux.
Il y a toujours des problèmes linguistiques en Belgique, même pour des séries. Il y a une auditrice qui me signale que chez elle, la version originale avec les sous-titres est activée de base, donc elle n'a même pas dû chercher sur
télécommande. Elle me donne son adresse, j'irai dimanche soir.
Bon, voilà, on vous refilera le filon pour les deux prochains épisodes
on est deux et
dimanche soir. Ivan Domador, le succès de cette série 1985, où on raconte un épisode de l'histoire de la Belgique, c'est un peu le même phénomène que la série Verhaal van Vlaanderen, dont on a déjà parlé ici, qui cartonne sur la VRT, série documentaire qui retrace l'histoire du territoire flamand.
Encore plus que 1985.
Oui, avec la même discussion, parce que peut-être je vais te surprendre, Béatrice, mais moi je comprends les francophones qui préfèrent la version doublée des conversations, parce que les acteurs flamands, ils utilisent ce tussental, la langue intermédiaire, qui est très populaire en Flandre, qui fait la réalité des conversations en Flandre, mais qui n'est pas de standard tal, c'est-à-dire la norme qu'on devrait parler, et qui ressemble l'hollandais, et surtout qui ressemble la version écrite de cette langue. Et cette langue intermédiaire est un des problèmes aussi dans l'histoire de Flandre, de Verhaal van Vlaanderen, où il y a des critiques, par exemple, l'ancien ministre-président de la Flandre, Geert Bourgeois, critique cette série justement parce que le présentateur Tom Waas utilise ce tussental, cette langue intermédiaire. Et son argument, c'est, bon, c'est peut-être une réalité. C'est une réalité qu'on peut utiliser dans des fictions, dans des séries de fiction. Et c'est vrai, par exemple, les séries dans le tussental de la Flandre occidental cartonne en ce moment, sont un succès fou. Donc c'est utilisé dans des fictions, dans une série prestigieuse qui devrait aussi être utilisée dans l'enseignement, par exemple. On devrait quand même utiliser ce
Elle est sous-titrée, d'ailleurs.
Oui, quand même, on va quand même pas, comme néerlandophone, sous-titrer nos propres paroles pour utiliser dans l'enseignement.
Parce que moi, je regardais, et elle est sous-titrée en néerlandais.
Elle est sous-titrée par exemple exemple, les acteurs utilisent le néerlandais du Moyen-Âge. Et donc, à ce moment-là, ça devient un peu difficile pour tout le monde. Pas tout le monde va comprendre de Koning, un des caractères de la bataille des éperons d'or, qui parle le néerlandais du Moyen-Âge. Mais non, c'est cette discussion. Donc, moi, je comprends les francophones qui se disent, mais bon, ce Tussental, pourquoi j'apprendrais ce Tussental? Ça sert à quoi d'apprendre et d'écouter ce Tussental? Je le comprends pas. C'est trop difficile. Et ça dépend d'où l'acteur vient. S'il est anversois, il y a en plus un accent anversois qui s'ajoute. Donc, ça devient un peu difficile pour tout le monde qui n'est pas flamand en ce moment. Et c'est un de nos problèmes, je crains, avec notre langue. Tout le monde qui vit en Flandre connaît cette situation, mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué, ben, c'est pas facile.
Ouais, il faudra que vous nous fassiez deux phrases, l'une en Tussental et l'autre en Standardtal, pour qu'on comprenne bien la différence, parce qu'en tant que francophone, les nuances, effectivement, c'est compliqué, Ivan de Vader. C'est quand même incroyable, ce phénomène. Attendez, Ivan de Vader.
En Tussental et Canarus, en Standardtal et Canarus, je vais à la maison, oui. En Tussental, c'est Canarus. Donc, il y a des éléments du dialecte, il y a des éléments où il y a des fautes de nom. Par exemple, on utilise le mot verschieten au lieu de schrikken, se faire surprendre. Mm-hmm. Mais verschieten veut aussi, et si on l'utilise par exemple aux Pays-Bas, ça veut dire la couleur d'un tissu qui se diminue. Et donc, les Hollandais nous regardent avec des grands yeux. On utilise par exemple le verbe s'appeler au lieu de nommer. Et ça fait une confusion. D'accord. Complète, ça fait des fautes, ça fait... Mais disons que tout le monde qui vit dans la communauté flamande comprend très bien ce que veut dire tout le monde.
Enfin, c'est un sujet qui vous passionne, hein. Plan langue avec Ivan de Vader, on en fera un de ces jours dans Matin Première. Toute une courte réaction là-dessus, Béatrice Delvaux.
En fait, je ne veux pas une courte réaction, mais je voulais juste terminer sur le Verhaal van Vlaanderen, parce que, vous savez, bon, après on en reparlera sans doute une fois sur le côté, les critiques qui ont été faites, c'est très bien fait, j'ai regardé l'épisode de la bataille des éperons d'or, très intéressant sur le fond aussi, pas du tout, enfin vraiment, c'était vraiment intéressant. Mais alors, dans le premier épisode du Verhaal van Vlaanderen, l'acteur Tom Waas, même dans sa Tussental ou pas, passe la frontière linguistique et vient dans mon petit village qui est Spie. En fait. Oui. Et donc, c'est un petit village où il y a une grotte préhistorique.
Bien
on a
sûr.
Découvert évidemment un homme, pas une femme de Néandertal, mais enfin bon, et il y a deux crânes qui ont été découverts. Et en fait, dans cette série, moi j'ai appris, peut-être vous devez le savoir, mais que nous avons tous en nous un peu de Néandertal à côté de beaucoup d'Homo sapiens. Et je trouvais ça absolument délicieux, parce que l'acteur Thomas se fait faire son espèce de code génétique, et le généticien lui confirme qu'il a 1,8 ou 2% de Néandertal en lui. Et je trouvais ça fabuleux que pour une série dont certains ont cru qu'elle allait magnifier l'identité, le repli sur soi, on apprend finalement que depuis l'origine, depuis la préhistoire, nous sommes très diversifiés.
Bah oui, évidemment. Verhaal van Vlaanderen, c'est à
oui,
revoir
mais quand
sur
même, encore,
VRT
encore,
et Max.
Encore
on a plus
une,
temps, on a plus
une réaction, parce que justement, l'épisode des éperons d'or s'est concentré sur les Flandres. C'était pas l'histoire de la Flandre, c'était l'histoire des Flandres, et on a oublié le Brabant, on a oublié la principauté, donc disons qu'à ce moment-là, on s'est vraiment dirigé vers... Bon, il y a beaucoup de critiques, mais c'est une émission fascinante, très bien faite et on en discute beaucoup.
Allez,
enfin.
Oui. Les séries de Verhaal van Vlaanderen, c'est sur VRT.be et 1985 sur...